Alors vous demandez pour se mettre en train comme ça, si vous avez des questions ou si des réflexions vous sont venues dans la nuit à propos de ce que nous avons déjà fait hier. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a une demande particulière ou quelque chose qui ne serait pas clair dans ce qu'on a dit hier, sur lequel il serait nécessaire de revenir. Oui. Oui. Oui.
Donc c'est la structure qui va avec ce contenu.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu de comment on a clarifié là, comment on avait décidé de traiter le contenu comme ça.
Oui. Alors, ça tombe très bien parce que votre question, parce que justement, je voulais rappeler une notion importante avant de commencer, qui est la notion d'opéra dans ce film. Je vais répondre à votre question après, mais j'en profite pour redire et réaffirmer le fait que là, dans cet objet, si on peut l'appeler ainsi, on travaille sur deux axes d'égale importance, d'ailleurs, qui sont l'axe du récit, c'est-à-dire du sens, et l'axe de ce que j'appellerais l'ordre musical de la bande sonore, étant bien entendu, je n'en reviens plus là-dessus, que ce que j'appelle ordre musical n'est pas forcément des éléments musicaux, mais une organisation musicale de l'ensemble. Alors, je pense que le cinéma est arrivé à une certaine époque à un point où on pouvait, certains en tous les cas, dont moi, le considérer comme une sorte de relais de l'opéra dans sa forme classique. Pourquoi ? Parce que l'opéra est probablement la seule forme qui traite justement de façon plus ou moins complexe, mais disons à partir de Wagner par exemple jusqu'aux deux opéras de Berg compris, qui traite à la fois du sens et de l'ordre musical. Dans les deux opéras de Berg en particulier, la musique rhétorise le récit. C'est-à-dire, et vous savez l'importance que Berg apportait à ces récits, le premier est un texte admirable, le second, à mon sens, un peu moins, mais Berg a tellement retravailler l'ensemble des deux pièces de Wittkind qu'il en a fait un autre récit finalement. Et rhétoriser le récit par la musique, ça veut dire renforcer le sens du récit par des figures d'ordre purement musical ou compositionnel. Par exemple, et je reviendrai fréquemment à cette analogie avec Berg, parce qu'elle a été finalement le départ de mon propre travail. Quand dans Wozzeck, Berg utilise des formes classiques telles que un mouvement de sonate, des variations, une fugue, etc., ce n'est pas bien sûr au hasard, et ce sont des formes qui expriment le récit d'une autre façon. Je n'en prendrai qu'un seul exemple, l'encerclement dans le deuxième scène du deuxième acte, l'encerclement progressif de Wozzeck par le docteur et le capitaine qui, à qui il est révélé l'inconduite entre guillemets de sa femme, effectivement la forme fugue, c'est-à-dire cette forme qui se resserre de plus en plus, convenait absolument à cette expression nouvelle du récit. Donc, dans un film tel que celui-là, j'ai cherché, toute proportion gardée évidemment, à organiser formellement la bande sonore de façon justement à exprimer d'une autre façon ce récit. Alors, vous me demandez, monsieur, finalement, quel était le propos de ce récit ? C'est un... Oui. Oui, quand j'ai employé le mot dis-narratif, c'est pour, si vous voulez, classer grossièrement cette forme de récit par rapport au cinéma, disons, habituel, au cinéma normal. Il est certain que ce film se situe dans une zone qui est tout à fait différente du cinéma où on vous raconte une histoire de façon continue, qui commence, qui va jusqu'à la fin, etc. Bon. Je pense que le propos de base était, au fond, finalement, l'histoire de ce film. C'est quelqu'un qui se construit et qui n'existe que par sa parole. Sa parole le construit peu à peu. C'est-à-dire qu'on part finalement de rien, hein, et toutes ces histoires successives, toutes ces versions successives, vont constituer le personnage. Et ce qui fait que, finalement, il le constitue à tel point qu'à la fin, lorsque le film se termine et qu'il se réveille et qu'il dit « je vais vous raconter ma véritable histoire », on n'est pas plus avancé, finalement, qu'au début. Hein. Alors, j'insiste sur le fait que c'est bien évidemment ce type de film et ce type de propos initial qui permet un travail sonore de ce genre. Il est certain qu'à partir du moment où on a affaire à un texte, à une histoire, à un récit filmique plus ou moins conventionnel ou traditionnel et qui n'a pas besoin de ce deuxième discours, tout ça tombe en poussière. Hein. Je vous ai répondu ? Voilà. Bon, alors nous allons poursuivre un petit peu notre exploration. Donc, nous en étions restés, nous n'avions pas vu le générique, mais qui ne pose pas de problème particulier. À la fin, Jean-Louis Trintignant s'était relevé, les oiseaux, etc. Et commence finalement cette première ouverture du film, parce que je vous rappelle qu'il y a dans ce film plusieurs débuts qui s'emboîtent comme des poupées russes et plusieurs fins qui s'emboîtent également. Et donc ce premier début, c'est l'arrivée de Trintignant dans ce village bizarre et un peu fantomatique. Et donc il va y avoir un système d'exposition des sons thématiques, sinon les plus importants, du moins qui vont être utilisés très fréquemment dans le film. Et qui, comme l'image, nous étions arrêtés, je crois, à l'image des visages des jeunes femmes qui tournaient avec les cheveux, etc., bon, qui sont déjà une intrusion vers ce qu'on va voir 5 minutes après, là, au même titre, on va exposer un certain nombre d'éléments sonores qui trouveront leur justification, leur ancrage à l'image au long du film, à un certain moment. Et que finalement on fait entendre pour donner aux spectateurs auditeurs les éléments de sa propre reconstruction du film. Alors, nous allons en repérer quelques-uns. Ah, il faudrait que vous vous mettiez... oui, parce que ça coupe le...
Qui volait dans le vent.
Nous avions vu ça, le thème de pas. Et le premier petit développement. La son itératif qui devient ponctuel. Les trois ruisseaux.
Mon nom est Robin.
Alors, voyez-vous, on a un exemple là de ce que je vous disais, de ce sens ajouté au montage, parce que le fait d'avoir placé ce woodblock tout juste avant son retournement de tête de Trintignant donne un sens particulier à ce son. C'est-à-dire que tout d'un coup, il semble qu'il entende cela. Et ça, justement, ça détruit cette notion classique de son in et de son off, puisque en fait c'est un son thématique et qui attire son attention.
Je vais vous raconter mon histoire. Ou du moins, je vais essayer. Voilà, ça a commencé dans une forêt, une grande forêt. Il y avait une sorte de sentier. Un peu incertain. Auparavant, il y avait eu un ruisseau, une pierre dans l'eau courante, des branches mortes. Mais non, c'était plutôt une prairie. Une grande prairie sans clôture avec des graines de chardon.
Alors, vous voyez, c'est ça que j'appelle la structure récitative, c'est-à-dire la ponctuation entre les phrases par un élément de bruit qui est thématique, puisque c'est la main plongée dans l'eau que l'on retrouvera dans la scène du bain après. Tous les sons qu'on entend là étant reliés à ce qu'on pourrait appeler une espèce d'érotisme ludique des jeunes femmes. Donc c'est vraiment en place de... d'accord, comme dans un récitatif de Mozart, on a dit yam poum poum, yam poum poum. Bon, c'est un peu conçu que de cette façon-là. Hein. Oui? Oui? Oui, absolument, oui. Mmh. Oui, et qui précisément est l'abolition de cette structure, son in, son off. Hein. Ça, vous l'avez tout à fait bien remarqué, effectivement, tous les textes sont dits de façon, je dirais, speaker radio. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet. En général, quand on post-synchronise un dialogue, l'ingénieur du son fait reculer l'acteur ou avancer, etc., de façon à retrouver un réalisme qui corresponde à l'éloignement ou au rapprochement du personnage. Là, pas du tout. Le seul endroit dans le film où il y a cet effet, nous passerons dessus certainement, au moment où le Trintignant est avec la servante dans une chambre, on voit en contre-plongée la pharmacienne qui rentre dans la pharmacie et la petite servante continue son dialogue derrière un rideau. Bon, c'est le seul moment du film où l'effet rideau, si vous voulez, a été fait. Alors, aussi bien, j'ai dit hier qu'il n'y avait aucune ambiance naturelle, c'est-à-dire qu'on travaillait sur un fond complètement neutre, un fond blanc comme un peintre sur une toile. Effectivement, le fait d'avoir conçu toutes les voix comme ça, monocorde, enfin monotimbrale, si je puis dire, rentre tout à fait dans ce système. Effectivement.
sans doute à proximité d'une petite ville ou d'un gros village. Où en étais-je? Ah oui.
Alors, même procédé, là, où en étais-je? Et ce coup de cisaille, enfin, qui sera celui des cheveux coupés dans la scène un peu fantasmatique, fait que « où en étais-je » a une toute autre valeur que s'il n'y avait pas eu ce son-là. Hein. Il est déjà, finalement, dans une temporalité qui n'est pas du tout celle du temps réel, mais qui est déjà celle de... Ce qui fait qu'en fait, on peut imaginer, c'est d'ailleurs le même principe dans Loulou, que quand nous commençons le film, c'est-à-dire à cet endroit-là, c'est peut-être la véritable histoire qui, quand il dit à la fin du film, je vais vous raconter ma véritable histoire, puisque tous ces sons, finalement, déclenchent chez lui une réaction. Hein.
Auparavant, il y avait eu un ruisseau, une pierre dans l'eau courante, des branches mortes. Mais non, c'était plutôt une prairie. Une grande prairie sans clôture avec des graines de chardon qui volaient dans le vent. Sans doute à proximité d'une petite ville ou d'un gros village. Où en étais-je? Ah oui, mon nom est Boris. Mais en général, les...
Voilà, alors, et pour conclure, puisqu'en fait, les différentes interventions thématiques sonores sont, comme vous l'avez vu, de grandeur et de, finalement, de densité différentes, là, on arrive à la fin d'une sorte de période de son discours, et donc la ponctuation, finalement, l'accord de récitatif est plus complexe, et c'est un premier son chimérique. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour...
Sans doute à proximité d'une petite ville ou d'un gros village. Où en étais-je? Ah oui, mon nom est Boris. Mais en général...
Voilà. Donc après mon nom est Boris, on a un son qui est formé finalement de trois sons. Un choc percussif, une cloche et cette espèce de vibration qui fait toc 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 et qui est la vibration de cette espèce de cimetière qu'on voit au moment où on va lui couper la tête et qu'on voit vibrer comme ça, c'est-à-dire une espèce de hache, je ne sais pas comment on appelle ça, dont la lame vibre étant enfoncée dans le bio. Et donc ces trois sons superposés d'une certaine façon et mélangés d'une certaine façon donnent lieu à ce que j'appelle, jusqu'à présent formé, un son chimérique. Voilà. Pardon, il y a quelqu'un qui veut parler? Oui. Oui, mais c'est même très ramassé. Ah, vous les sentez? Oui. Oui. Oh, oui, c'est peut-être, disons, c'est une phrase pour vous. Oui. Oui. Oui, là, oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui.
Mais plus tard, avec les portes, ils claquent et tout de suite, ça ne tient pas.
Oui, vous avez raison, c'est certainement plus chimérique à ce moment-là que maintenant, mais c'est tout de même dans le même,
dans le même esprit,
si vous voulez, mais plus, plus détaillable, effectivement.
Là, c'est une petite
cellule. Oui.
Alors que l'autre, dans la tête, c'est toujours la peur, voilà.
C'est ça. Ça, c'est, oui, oui. C'est-à-dire que c'est un son en trois parties au lieu d'être un seul son composé de trois parties. Oui.
Jean, et quelquefois aussi l'Ukrainien. Je n'ai jamais su pourquoi.
Alors, je voudrais revenir aussi, parce que c'est une forme, là, qui est dans l'image, là, il n'y a pas de son particulier, qui est très particulière à ce film, qu'on retrouvera d'ailleurs sous une autre forme chez Godard, qui est un principe de tuilage, bien connu de la musique contemporaine aujourd'hui, qui fait que, quand on est dans un film, dans un lieu, dans un temps, dans une scène, quelque sorte, bon. Et puis on a un insert, quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec scène, qui est une sorte d'appel vers l'extérieur, et puis on revient à la scène principale, on a comme ça des inserts par rapport à une action principale. Bon. Là, on verra à plusieurs reprises que la scène principale, donc, c'est l'arrivée de Trintignant, qui est coupé donc par d'abord ses visages, ensuite les jeunes femmes qui sont dans le jardin, puis elles sont au château, visiblement elles ne l'attendent pas, mais enfin c'est ce qui va se passer avant son arrivée. Et la scène principale, c'est-à-dire l'arrivée de Trintignant, devient insert par rapport à l'insert qui est devenu scène principale. Je ne vois pas si vous voyez ici. Pardon ? C'est un genre de permutation, c'est-à-dire que ce qui était secondaire devient principal, et ce qui était principal devient secondaire. Ce qui fait que l'enchevêtrement des différents événements, des différentes, disons, séquences, entre guillemets, de ce film, étant continuellement comme ça enchevêtré, il est très difficile, même pour les analystes et les... Beaucoup d'universitaires ont étudié ce film, d'arriver à dire séquence numéro 1, segment numéro 1, segment numéro 2, segment numéro 3, puisqu'il faut bien nommer pour pouvoir décrire. Parce qu'en fait, le segment numéro 1 recouvre le segment numéro 2, et le segment numéro 2 part avant la fin du segment numéro 1. Hein. Ce qui fait que c'est une sorte de continuité dont il est très difficile de dire où est le début et la fin de tel ou tel élément.
C'est plus qu'un entrelacement.
C'est un tuilage. Hein, moi, je pense que oui, c'est un tuilage, mais qui arrive parfois à être un triple ou quadruple tuilage. C'est-à-dire que le système que je viens d'exposer peut se retrouver à plusieurs niveaux différents, 2, 3 ou 4. Et c'est ce qui se passe en particulier dans cette partie-là.
Je recommence. La première fois que je suis arrivé...
Alors, là, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a rien, pratiquement, pour laisser une sorte de temps de repos. D'abord parce que le montage commence à être plus complexe. Nous revenons à cette notion de distribution du pouvoir dont je parlais hier, qui n'enlève rien à la... Je ne sais plus qui parlait de la tension continue du film. Effectivement, ça n'enlève rien à la tension, mais ça permet tout de même de finalement concentrer son attention sur telle ou telle figure dans le film. Et il n'y a pas plus de texte, d'ailleurs, et tout est concentré sur, finalement, l'ordre musical du montage, là.
J'ai erré d'abord à travers les rues, anonyme parmi la foule des passants.
Alors, là, il y a un jeu, comme vous pouvez l'entendre, il y a un bruitage, c'est-à-dire que les gens qui bougent font le bruit qu'ils devraient faire normalement, bien qu'ils soient très discrets, on les entend marcher ou les frottements. Bon. Et il y a réintroduction d'un son thématique, mais accroché à l'image, c'est-à-dire ayant un statut complètement différent de ce même son que nous avons entendu tout à l'heure comme ponctuation de récitatif, prend une puissance peut-être plus grande du fait qu'il correspond à un geste qui est quand elle frappe le tableau, ce qui fait qu'à pendant un centième de seconde, on pense qu'elle met sa main sur le tableau, et finalement on s'aperçoit que c'est un élément thématique qu'on reconnaît. Ce qui donc déplace un petit peu la force de ce premier événement sur celui-là. Je le refais passer. Et donc les deux sons en question sont d'une part se faire rouiller sur pierre, enfin c'est une espèce des frittements comme ça, qui est donc lié à la scène du grenier, et également cette espèce de voix résonante qu'on entendra à la fin de l'auberge, c'est-à-dire qu'on est en avance là toujours sur les événements du récit qui vont se produire dans quelques instants plus tard.
Jean. Bien sûr, il faut que je parle de Jean. C'était mon ami, mon camarade, mon compagnon de lutte.
Est-ce Est-ce que ça vous dit quelque chose, le son qu'on vient d'entendre? Enfin, oui. Celui-là. Hein.
Jean. Bien sûr, il faut que je parle de Jean. C'était mon ami.
Non. Non. C'est accroché dans... Non. C'est un son qui est entendu dans une scène, qui est d'ailleurs la reproduction d'une scène célèbre, d'un film célèbre de 1932. Pardon ? Oui, c'est une espèce de frémissement de bois, hein, de comme ça. C'est l'armement des fusils. Quand dans la scène, il y a une scène où il y a le jugement qui est absolument la reproduction exacte d'une scène de M. le Maudit, avec la même disposition des personnages, qui est vraiment une citation. Et à un moment donné, les partisans prennent leurs fusils, arment leurs fusils, avant que l'autre fasse toc et que le type s'effondre finalement dans un autre lieu. Alors ça, c'est le type même de ce que j'appellerais une rhétorisation, à savoir qu'il fait déjà allusion, d'une façon très condensée dans le texte, à tout ça, à sa relation avec Jean, avec donc sa trahison, son amitié ou ce qu'on voudra, bon, déjà sa mort ou sa fausse mort est déjà signalée par ce bruit. Hein. Oui, alors j'en reviens à ce que je disais l'autre jour, c'est le coup de Berg dans Marie perdue dans ses pensées, avec l'accord de la mort, effectivement comme l'accord de la mort en tant qu'après, mais on peut considérer qu'on peut voir ce film deux fois. C'est M. le Maudit, mais il y a exactement, enfin pour ceux qui connaissent ce film, il y a exactement la même... Même disposition, c'est pas les mêmes personnages évidemment, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même disposition, c'est la même dramaturgie, quoi.
Mon compagnon de lutte.
Mais je voudrais juste que vous voyez par rapport au texte.
Jean. Bien sûr, il faut que je parle de Jean. C'était mon ami, mon camarade, mon compagnon de lutte.
Pardon ? Si, pareil, oui. Ah, c'est ça dont vous vouliez parler. Ah, oui, effectivement. Oui, non, j'avais pas compris. Je croyais que vous faisiez référence à un son. Oui, effectivement, c'est long, c'est pareil. Ben, pourquoi il n'y aurait pas des citations, hein? Bon. Hein. Voilà, exactement.
Oui, les rues étaient désertes, évidemment. C'était pendant la guerre. Et les gens sortaient le moins possible de chez eux. Ils n'aimaient pas beaucoup côtoyer les troupes d'occupation, ni montrer leurs papiers 10 fois par jour aux soldats ennemis et aux gardes civiques qui patrouillaient 2 par 2 à tous les carrefours. Oui, c'est cela. Des chevaux de frise et des sentinelles qui surgissaient au coin des rues. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà raconté l'histoire de la pharmacienne et du barrage de contrôle qu'ils avaient dressé en travers de la chaussée, à l'entrée du pays. La première fois donc que je suis arrivé...
Là, je vous signale, c'est pas dans le son. C'est un défaut de... Parce que c'est un raccord de bobine et donc il y a un bruit électrique. Hein. Voilà. Non, parce que comme tout est calculé, il ne faudrait pas croire que c'est, c'est volontaire.
Bon, je crois qu'on va passer... Je me suis dirigé tout droit vers l'auberge. Vide, elle aussi, comme d'habitude, à cette heure matinale.
On est à combien là de... Bon, on va passer à 1000, à 1380, à 1330 plutôt. Alors, là, il y a eu la scène de l'auberge où on a parlé du disparu et son âge, etc. Et donc, c'est un deuxième trajet. Le Trintignant est allé du néant au village, ensuite à l'auberge, et là, il va aller de l'auberge au château. Alors, là, il va se passer plusieurs choses qui méritent d'être signalées. Alors, bon, il y a ces, il y a d'abord un jeu entre les voix. L'ambiance de voix réelle qui se trouve dans l'auberge, et puis ces voix un peu transformées, résonantes, qui évoluent un peu en vitesse. Je rappelle qu'à ce moment-là, on n'avait aucun instrument pratiquement pour... qui sont soit ralentis, soit accélérés, mais dans des proportions très, très, très minimes, hein, bon, parce qu'on n'avait pas autre chose. Je vous rappelle qu'il s'agit de 67, hein, bon, on parle d'autres instruments. Mais qui sont là pour, et surtout on s'en aperçoit quand on revient à l'ambiance de voix directe de l'auberge, se rapprocher finalement, une sorte de contiguïté avec un son nouveau qu'on n'a pas entendu jusqu'ici et qui est affecté d'une manière générale au trajet labyrinthique de Trintignant, c'est-à-dire au trajet labyrinthique, hein. Puisqu'au fond il est toujours dans une espèce de labyrinthe entre l'auberge, le château, à l'intérieur de l'auberge, etc. Et bon, ce son n'a pas un intérêt particulier, sinon que c'est un peu une sorte de... Enfin, il est conçu comme une trame qui est faite à partir de... C'était assez nouveau à l'époque de travailler avec un accéléromètre ce qu'on appelle aussi micro-contact, c'est-à-dire des micros qui prennent la vibration des matériaux et non pas sont transmis par l'air. Alors j'avais fait à ce moment-là des enregistrements comme ça sur des poteaux téléphoniques qui étaient en bois à l'époque, et quand le vent soufflait, en particulier le Mistral, sur les fils, le poteau entrait en vibration et donnait ces espèces de trames ondulantes comme ça. Non, pas du tout. C'est parce que les micros dans les téléphones prennent tout de même la vibration de l'air. Là, ce sont des espèces de cristaux à l'intérieur d'un métal particulier et qui prennent vraiment la vibration de la matière. On peut les enfoncer dans la terre, par exemple. Bon, ça prend la vibration. Et c'est ce qui donne ce son un peu éolien, comme ça. Alors, il y aura toujours... Et finalement, cette matière-là sera toujours affectée à ces trajets. Et là, on commence déjà à le percevoir. Ah oui, oui, alors, oui, il y a autre chose aussi que je voulais dire. Quand il parle à la pharmacienne, il y a introduction du premier son musical, qui est un trémolo sur trémolo de violoncelle. Et qui généralement qui vient remplacer la conversation, c'est-à-dire que ils se disent des choses qu'on n'entend pas, ils montrent une direction et en fait là la parole est supprimée et remplacée par ce son musical, au même titre d'ailleurs que dans la scène avant le puits dans la cour, les réponses aux questions seront données par des bruits. Donc il y a un déplacement là, le sens est donné par ça. Et d'ailleurs, quand elle lève le bras pour lui montrer une direction, au moment où son bras arrive à l'horizontale, le son s'arrête. Hein. Toujours dans un souci d'ancrage à ce qui se passe dans l'image. Hein. Car si ce son... C'est une chose très importante, ça, dont on... mais connaît souvent la force. Un son peut être très bien, avec une image très bien, la relation se paraît évidente. Bon. Et le déplacement de ce son de quatre images, de deux images, de six images, en avant ou en arrière, va changer complètement la perception. Le dynamisme, oui, la perception physique, il y a quelque chose qui va convenir à une certaine place, dont il restera l'idée générale à une autre place, mais qui n'aura pas cette espèce de congruence, si on peut dire, entre l'œil et l'oreille. Et je crois que ça, c'est un exemple, par exemple, du fait que tout d'un coup, c'est la fin du son qui s'accroche sur quelque chose, et ça aurait été tout différent s'il avait été placé autrement, même s'il avait le même sens, c'est-à-dire remplacer la parole. Hein. Et ce qui démarre ce son, cette trame destinée au trajet labyrinthique, j'appelle ça un son de bocal, parce que c'est lié à la pharmacie pour moi, est en fait un coup. Je vous dis comment c'était fait, c'était très simple, c'était un coup de maillotche de grosse caisse sur une table d'harmonie de piano à queue dont on a mis la pédale, si vous voulez, qui fait donc boum, boum, comme ça, et associé à une résonance de cloche. Hein, donc on se rapproche un petit peu des sons chimériques qu'on va entendre par la suite. Voilà le trajet. Terminer une période. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez reconnu quelques sons qui vous sont désormais familiers? Je vais le repasser. Comme il s'agit d'un atelier, tout le monde travaille. Donc je parle du complexe qui est au moment où il ouvre la porte. Hein. C'est ça. Et là, les sons sont ancrés. C'est-à-dire, on a la mitraillette. Pardon ? Voilà, exactement. Donc, il y a une espèce de, je dirais, de mise en ordre hein, de ce qu'on a déjà mémorisé et qui maintenant prend sa place à travers l'image. Hein. C'est ça, exactement. Exactement. Là, voyez-vous, j'annonce le système de sons associés au bruit par le fait d'avoir ce petit motif corde synchronisé sur ses pas. Hein. Les portes vont faire de la musique, et ben, après qu'on l'ait vu marcher normalement, ses pas font de la musique aussi. Alors là, les portes soit déclenchent à partir d'un grincement un petit module musical qui s'y intègre. Je crois que là, on peut commencer à parler peut-être de son générique. Ou au contraire, viennent les stopper. Hein. Pour moi, c'est le plus réussi. il est vraiment bien chimérique. Ah oui, volontiers. Un plaisir. Alors, je crois qu'on peut dire tout de même que si Imaginez qu'il y ait simplement un bruitage normal d'ouverture de porte ou de fermeture de porte, je pense que la scène aurait un tout autre effet. Elle serait beaucoup plus longue.
Là, on y a le mystère.
Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois, en plus, justement, que dans ce type de travail, je vois ça avec des étudiants avec qui je travaille à l'école, ça ne doit jamais être... Il faut toujours que ça soit varié. Si on commence à se lancer dans cette voie-là, on ne peut pas se permettre une répétition. Donc, il faut que les sons soient variés, ou il faut qu'à l'intérieur d'un dispositif, ce dispositif soit dévoyé à un moment donné. C'est le cas, par exemple, du pivert qui est remplacé parfois par un autre son, qui annonce aussi, mais parce que si c'était chaque fois le pivert, on aurait compris. Donc, il y a une gestion des dispositifs, en général, qui est extrêmement minutieuse. Sinon, ça devient systématique et sans intérêt. Oui, exactement comme dans un phénomène purement musical, les choses évoluent tout le temps. Il y a vraiment que dans la mauvaise musique, où, vous savez que c'est, je crois que c'est Schoenberg qui disait « N'écrivez pas de la musique qu'un copiste peut écrire », quelque chose de ce genre-là. Bon. C'est vrai, il faut qu'à chaque fois, on soit, oui, surpris, qu'on avance, quoi. C'est la même chose... pour ça. Ah oui, alors là, on a... Vous pouvez mettre à 1900, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, je vous rappelle qu'il a commencé à raconter cette version-là avec les jeunes femmes dans le château. C'est donc un enfer par rapport à la scène du château.
Il vaut mieux que j'aille chercher un médecin. Je serai là dans 2 heures. Après, nous continuerons. Je sais où trouver quelqu'un qui est des nôtres.
Vous avez trouvé un médecin?
Oui, bien sûr.
Qui était-ce?
Le docteur.
Voilà, alors c'est cette scène-là que je voulais vous remontrer pour insister peut-être à nouveau sur le fait que tous ces sons ont été montés de façon non prévue au départ, évidemment avant les mouvements de visage, ou en réponse à des questions posées. Alors là, c'est très nettement un bruit de saut de puits, hein, enfin je crois qu'il est très reconnaissable. Nous allons avoir cette scène après, donc dans 2-3 minutes après, ça ne peut pas venir de là, du fait même de la présence du son, qui n'est pas du tout un son éloigné, un son off, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas un son off à cause de ça, mais il ne peut pas être ressenti comme ça. Et en deuxième lieu, parce que l'actrice de ce son, si je puis dire, est dans la pièce, elle est avec nous, hein, elle est dans le coin à gauche. C'est donc le principe de ce télescopage de temps. Pour moi, ces deux scènes sont pratiquement en même temps. hein, comme l'exemple que j'avais donné de Berg avant-hier.
Il n'y a pas de village entre ici et la frontière.
Non. J'ai dû revenir jusqu'ici.
Il n'y a pas chez nous de docteur Müller.
Müller, bien sûr, c'était un surnom. Nous avions tous des noms de code. Müller, c'était le docteur. Oui, on avait tous des surnoms à l'époque. Moi, c'était l'Ukrainien. Le vrai nom du docteur, c'était... Non, j'ai oublié.
Alors, là, on est encore dans un statut différent, puisque la servante actrice de ce saut est sortie de l'image, donc ça pourrait être un son off, mais ça ne l'est pas encore du fait que ce saut est beaucoup trop présent. Il est quasiment dans la pièce, enfin il est entendu comme à 2 mètres de l'action, et donc il a maintenant un statut médian, je dirais, entre sa première apparition et quand on va réellement voir le saut et le son correspondant.
Vous ne me croyez pas?
Non, moi je n'en sais rien. Je ne connais pas toutes ces histoires. Quand je suis arrivée ici au service de madame et de mademoiselle, monsieur Jean était déjà parti depuis longtemps.
Vous ne l'avez pas connu?
Non. Je suis venue de la plaine.
Madame a dû vous parler souvent de son mari.
Jamais madame ne parle de monsieur Jean.
Ah, eh bien, moi je peux vous en parler. J'ai travaillé avec lui tout le temps. Jour et nuit, je peux dire. Jean, c'était un type extraordinaire. Un jour, je me rappelle, un général était venu pour inspecter les casemates qu'ils avaient construites dans la forêt, sous la ligne des crêtes. Qui c'est ce vieux?
Vous devez le savoir si vous connaissez tellement bien la maison.
Je venais ici le moins possible.
Quand même, vous devez l'avoir vu déjà. C'est le père de mademoiselle et de monsieur Jean.
Voilà, je vais revenir sur ce dernier son. Toujours dans cette perspective de recherche de contiguïté, de liaison les sons entre eux, on l'entend pas très très bien là, on l'entend mieux en projection. Quand vous avez un... Quelle que soit l'admirable qualité sonore de l'installation, monsieur Noël. Mais c'est une question de niveau, c'est-à-dire comme on l'écoute à bas niveau. Vous savez, quand vous prenez un seau plein d'eau et ça fait comme ça, ça fait une espèce de son très particulier, comme de tournoiement, hein, de tourbillon, bon, et qui s'enchaîne directement avec la trame dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais vous le faire réentendre. Autant qu'on pourra entendre avec nos voisins.
Oui. J'ai travaillé avec lui tout le temps. Jour et nuit, je peux dire. Jean, c'était un type extraordinaire. Un jour, je me rappelle, un général était venu pour inspecter les casemates qu'ils avaient construites dans la forêt, sous la ligne des crêtes. Qui c'est ce vieux?
Vous devez le savoir si vous connaissez tellement bien la maison.
Je venais ici le moins possible.
Quand même, vous devez l'avoir vu déjà. C'est le père de mademoiselle et de monsieur Jean.
Quelques mots. d'avoir relevé un peu.
Attendez, je vois un tout petit peu. Que...
Des questions sur tout ça? C'est pour me donner une contenance, hein, quand je vois. Alors bon. Ah, vous n'avez plus que 3 secondes. Hein. Alors, grâce à M. Marie qui est là, j'ai pu constater, ou nous avons constaté, que il y a dans cette scène du puits, je crois que c'est le seul moment dans le film où il commence à raconter une histoire de général et de casemate. Et puis le récit est coupé, comme dans beaucoup de cas. Et quand il va la retrouver, quand elle pend du linge sous une espèce de clocher, cette histoire va reprendre. C'est-à-dire que ce procédé que nous avons vu d'insert constant d'une scène dans l'autre, je pense que c'est la seule fois qu'il existe dans le texte, dans le récit, hein, où un récit interrompu reprend tout d'un coup dans un autre. Sinon, c'est des blocs de récits, tous différents, mais qui sont d'un seul tenant. Alors, nous arrivons, si vous voulez bien, à 22-20, s'il vous plaît. 22-23, bon, alors c'est bien. Alors, donc, c'est deuxième scène dans l'auberge, cette fois-ci vraiment vide, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons eu la description de cette auberge-là, avant la première auberge qui était pleine, hein. Donc déjà le titre commence à prendre une certaine valeur. Et cette scène est sous le signe de l'eau. Vous pouvez déjà le constater. Je vais monter un tout petit peu. Voilà.
Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir... Je voudrais un verre de vin. Et aussi une tranche de pain, s'il vous plaît.
Ces deux phrases reviendront à plusieurs reprises dans le film. À réentendre peut-être. Bon, donc on est entré dans l'auberge, il y a eu au début un espèce de chuintement continu comme un robinet mal fermé, les bouteilles qui se remplissent, les verres, etc., qui nous mettent dans la situation de l'eau, et puis tout d'un coup il y a ce fantasme étrange, tant pour l'image que pour le son, mais qui est naturellement pour le son, relié également à l'eau, mais où il y a un jeu assez subtil entre la réalité, la non-réalité, le vrai off et le faux off. Hein. Alors, nous allons regarder ça à peu près.
Il a connu, toi ? Est-ce que je pourrais avoir...
Très beau montage, ça me porte.
Je voudrais un verre de vin. Et aussi une tranche de pain, s'il vous plaît.
Excusez-moi, j'arrête à nouveau avant qu'on arrive au passage concerné pour insister sur une des particularités de ce film, c'est l'organisation rythmique du texte et du montage image. Il y a en particulier dans la façon dont le texte s'arrête, dont il va reprendre la tranche de pain, etc., et le jeu des portes avec le départ de l'aubergiste et l'arrivée de la servante, qui est extrêmement... que moi j'entends comme une musique, finalement. Hein? Absolument. Et les cadres, et les focales, et tout ça. Donc c'est ça, la rhétorisation du récit, si je puis dire. Et c'est ça qui différencie ce film d'autres. C'est le fait que dans un film, normalement, habituellement, on s'organise pour avoir un montage significatif et une image qui indique bien qui sont les gens, ce qu'ils font, etc. La syntaxe, si je puis dire, à part une syntaxe classique de montage que tout le monde connaît, n'intervient pas comme élément supplémentaire d'organisation du film. Or là, quelque chose d'aussi insignifiant qu'un personnage qui s'en va, qui ferme la porte, et un autre qui rentre, devient tout d'un coup quelque chose de très important sur le plan dynamique, sur le plan rythmique. Oui, absolument. Donc il y a aussi, à l'intérieur du plan, une sorte de tempo. Voilà, on a l'impression de quelque chose qui... à des variations de tempo extrêmement perceptibles, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, mais vraiment tout à fait perceptibles. Alors, nous allons... Ça n'a pas marre, voilà. Nous allons au petit endroit là qui nous intéresse. J'attends des commentaires. Sauf M. Marie.
Il y a un moment où on voit la photo de Jean
qui s'anime. Oui,
qui s'anime. Mmh. Ça reviendra plus tard. On revoit la position.
Oui. Oui, mais là, je voudrais surtout... quelques commentaires sur la façon dont le son évolue. Hein, bon, ce sont des sons d'eau ou des sons de choses qu'on poge.
La photo de Jean déclenche. On est passé d'un bruit d'eau qui était présent dans l'auberge au bruit de la rivière.
Donc, oui, du début. Oui, absolument, oui.
Et ce bruit d'eau va être renforcé par les bruits de l'auberge qui sont posés.
Oui.
Et ils tournent, ils font la queue, etc. Et je trouve qu'il y a un instrument de boisson.
Mm. Oui.
Et surtout le premier son qu'on ne voit pas, il fait une accroche, qui résonne terriblement. Mmh. Et puis on ne sait pas si c'est un son réel ou pas.
Mmh. Oui, et il stoppe quoi? Il stoppe quoi justement? La rivière, oui, c'est ça, oui. Et il stoppe la rivière en particulier, oui, c'est ça. Oui, alors, je sais pas, quelqu'un peut-être autre chose à ajouter? Oui. Bon, alors tout ça, ça nous amène à quoi? C'est-à-dire, si on essaye de tirer une sorte de dispositif général, c'est qu'en fait, on a affaire à des sons thématiques. Qui sont entendus comme ça, puisque la rivière, il n'y a aucune raison qu'on entende la rivière là, bon, je pense que ce sont là en particulier. On a des sons réels qui pourraient être off, mais dont on ne sait pas encore qu'ils sont off, puisqu'on n'a pas vu la servante, qui est la fin de la scène, remplir cette chose-là. Et on a. Une organisation de ces sons par les mouvements de cette photo qui s'anime, c'est-à-dire qui est encore un espace finalement fantasmatique qui est intransmissible. Il y a trois espaces au fond. Il y a un espace thématique, il y a un espace qui pourrait être celui de la réalité, mais dont on ne sait pas très bien, dont il va tout d'un coup devenir la réalité au moment où on verra l'image et où ça stoppera effectivement tous les éléments thématiques. Et un dispositif, un troisième espace de fantasme qui, où les gestes vont agir sur l'organisation des sons. Je crois qu'on peut arriver à organiser ça en trois niveaux, comme ça. Là encore, il est certain que, imaginer cette scène, je ne sais pas, avec juste un bruit off du robinet qui coule, ça n'a absolument aucun sens. Elle prend son sens par justement ce surlignage du travail sonore derrière. On va peut-être le revoir.
Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir...
Il dira l'entendre d'eau, comme ça.
Je voudrais un verre de vin. Et aussi, une tranche de pain, s'il vous plaît.
Main dans l'eau. C'est ça, c'est une variation sur le cimetière qui est en fait une assiette qui se coupe. Bon, je crois qu'on peut guère dire plus là-dessus. Oui? Espace? Oui. Je dirais donc l'espace thématique. L'espace thématique, c'est la rivière, c'est les mains dans l'eau, hein, comme ça. Y en aurait-il un autre je crois que c'est à peu près tout. L'espace fantasmatique qui est les sons, qui sont les sons qui viennent au moment de la photo, hein, et l'espace réel qui est le bruit que peut faire la servante et dont on s'aperçoit qu'ils sont off à la fin de la scène. Oui, une question, pardon, oui. Je comprends pas très bien la question. Oui. Ah non, c'est moi-même, oui. Oui. C'est moi-même sous le contrôle du metteur en scène, naturellement. Bon, mais... qui d'ailleurs a découvert beaucoup de choses au mixage, puisque, comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, on ne pouvait entendre que deux ou trois sons à la fois, en même temps, dans les salles de montage, et que donc au mixage où on avait toutes les bandes à écouter, quelquefois on avait des surprises. Bon, mais enfin, ça s'est bien passé. Non, il était d'autant plus important que je mixe, que par exemple, pour les sons chimériques, il n'y avait que moi qui pouvais les mixer. Même pas le mixeur attaché au studio ne pouvait le faire. C'est un travail dans lequel, mais je pense que c'est valable pour pratiquement tous les films structurés de cette façon-là, où le montage et le mixage sont pratiquement indissociables. Parce que si ça n'est pas mixé d'une certaine façon, un montage devient tout à fait différent de ce qu'on avait voulu. Si vous avez un son A, un son B, un son C superposés les uns sur les autres, selon que vous mixerez A plus fort ou B plus fort ou C plus fort, ça peut vous donner un résultat complètement différent. Résultat d'ailleurs que ça s'apparente assez à au jeu instrumental, puisque effectivement, dans une œuvre comportant plusieurs instruments, selon. Mais tout de même, comme il y a des repères de hauteur dans la musique, finalement on peut dire le hautbois joue trop fort, mais enfin ça ne fait pas vraiment un résultat complètement différent. Alors que le fait que, surtout en monophonie, les sons font très rapidement effet de masque, c'est-à-dire arrivent à se masquer les uns les autres, il y a des atténuations très très fortes sur certains sons qui font que la matière même du son change complètement selon le niveau auquel il est mixé. Cela pour dire donc que ce serait tout à fait inconséquent que je ne sois pas au mixage pour régler moi-même certains dispositifs. Complètement. Oui, absolument. Absolument. Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. C'est modelé vraiment avec les mains. Finalement. Bien, y aura-t-il quelques questions? Parce que je voudrais pas entamer la séquence suivante, qu'il nous reste quelques minutes. Eh oui, et oui, malheureusement, oui, c'était le seul moyen à l'époque de synchroniser les sons les uns par rapport aux autres et l'ensemble par rapport à l'image. Donc c'était des bandes magnétiques perforées 35 mm comme l'image, n'est-ce pas ? Parce que c'était la seule façon. Maintenant, on procède tout à fait naturellement différemment, soit en montage multipiste, soit, comme je le disais hier, des montages informatiques sur disque dur qui facilitent naturellement beaucoup, beaucoup les choses. Oui ? Oui, bien sûr. Et en vidéo, ça s'appelle les trams, oui. Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que il n'y a pas d'erreur mécanique. Est-ce qu'elle veut dire combien de tolérance a-t-on pour qu'un événement paraisse synchrone, par exemple ? Ah, oui. Bon. Oui. Alors, premièrement, aujourd'hui, on fait le montage que l'on veut, à l'image près, et même à la demi-image, enfin à la trame près, même au centième de seconde près, au millième de seconde près pour le son. Donc, il n'y a aucune difficulté matérielle. À l'époque, étant donné qu'on travaillait sur film perforé, il n'y avait non plus aucune difficulté, sinon que naturellement, c'était l'image qui était, je dirais, la pulsation de base. Hein, on ne travaillait pas en dessous du 24e de seconde. Alors, quant à la perception du synchronisme, il se trouve que j'ai fait l'année dernière une recherche avec des scientifiques pour le CNRS sur la perception simultané. Et on a fait ça très sérieusement avec des tests, des échantillonnages humains de sexe, d'âge, de profession différentes, enfin, comme font les gens de science, hein, bon, très très sérieux. Et on est arrivé à des conclusions absolument hallucinantes. C'est-à-dire que, je trouve très, très grave pour les gens qui font ce métier-là. À savoir que il y avait encore 50% des sujets testés qui étaient vraiment pas des crétins, hein, je veux dire, enfin, des gens tout à fait comme vous et moi, hein, bon, qui entendaient encore synchrone 4 images après. Le test était le suivant, c'était juste un clap, hein, c'est-à-dire, vous savez, comme ça, avec le son du clap. Bon. Et on passait une première séquence de 10 minutes où il y avait 70 événements comme ça, toujours de la même durée, qui se succédaient. Et selon qu'on entendait le son avant, on appuyait sur un clavier, sur une touche comme ça, ou après comme ça, ou si c'était synchrone, sur la barre d'espace au milieu. Donc c'était vraiment des... Et avec un apprentissage, enfin pendant 5 minutes, la personne pouvait s'exercer. Donc c'était vraiment des conditions tout à fait normales. Et donc, on est arrivé à la conclusion que seuls environ 10% des sujets ayant pratiqué ce texte ne se trompaient jamais, c'est-à-dire trouvaient synchrone les choses synchrones, hein, que environ 50%, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, en gros, c'était ça, trouvaient encore synchrone, quand c'était décalé de 4 images en avant, c'est-à-dire que plus exactement que le son arrivait quatre images après l'événement visuel, alors que si le son arrivait deux images avant l'événement visuel, il ne percevait pas comme synchrone. C'est-à-dire que finalement, il rétablissait le synchronisme si le son était en retard et pas s'il était en avance. Mais 2 plus 4, ça fait 6. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, à l'intérieur d'une tolérance de 6 images, ils percevaient synchrone. J'en ai été malade, je peux vous dire. Alors, l'intervalle, c'est 40 millisecondes si c'est 25 images par seconde, et c'est 45 millisecondes si c'est 24 images par seconde. Hein?
C'est quel équipe qui a fait ce travail?
C'est moi. C'était une commande du CNRS, et je dirigeais cette recherche avec un neurophysiologue de l'hôpital de la Salpêtrière, et... Pardon? Non, Monsieur Rago, Richard Rago, et puis un psychoacousticien du laboratoire de Aix, en Provence. Et nous avons fait ensemble la procédure, des tests, etc., pour arriver à ces résultats-là. Mais 40 millisecondes, c'est beaucoup. Demandez, par exemple, à ces compositeurs qui sont au fond, là, qui n'écoutent rien de ce que je dis, et qui travaille dans l'électroacoustique, 40 millisecondes, c'est énorme. C'est très long, 40 millisecondes. Le seuil de perception, c'est 10 millisecondes. Hein? Pour le son, oui.
On n'a pas l'impression d'un intervalle de 10 millisecondes si ça succédait des événements. 10 millisecondes, j'entends, je l'ai dit, jusqu'à 30, jusqu'à 40. À partir de 40, on commence à entendre. Ça fait déjà dans le 5,5.
À 40 millisecondes, on commence à entendre.
Voilà.
Et
avant,
ben oui.
Avant 40
millisecondes, ben oui.
On a l'impression que c'est tenu. C'est-à-dire
oui.
10 millisecondes, comme il dit, on ne peut pas faire ça. Oui, à quand c'est des clics, effectivement, 10 millisecondes, ça ne pourrait pas juste être un clic aussi que fait des événements continus. À 10 millisecondes, on ne peut pas percevoir l'intervalle. Et au-delà de...
De toute façon, monsieur, pour vous donner un exemple, si par exemple vous décalez, vous avez un son qui dure n'importe lequel, hein, qui dure un certain temps, bon, et vous le montez à une image d'écart, vous montez la copie de ce son. Hein, vous avez déjà un phénomène de résonance. Et à deux images, vous avez carrément un écho. Donc, il y a bien quelque chose qui change à 40 millisecondes.
Hein.
Pardon ?
Ah
oui, déphasage. Oui, mais déphasage, c'est autre chose. Oui. Oh, une fois, pas tellement sûr. Oui, c'est exact. Ouais. Enfin, le déphasage, c'est tout de même. Enfin, ça change. Effectivement, ça change. Ça, c'est sûr. Bien. Eh bien, je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à demain, à moins que vous ne veniez à la table ronde qui a lieu tout à l'heure avec M. Takemitsu.